plus d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour chronique sur Radio Boomerang 89.7 FM. Dans l'émission précédente, il était question de la propagande de guerre. Souvenez-vous, Macron nous annonçant solennellement « Nous sommes en guerre ». À l'époque, c'était contre un virus et l'arme absolue était le vaccin. Le monde de la publicité put s'enrichir grâce aux spots diffusés continuellement, comme celui où la grand-mère peut enfin embrasser ses petits-enfants sur une chanson de Gilbert Bécaud.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
Madame,
je reviens.
Madame,
te chercher.
Ça va? Ça vous a pas fait trop mal?
Oh, pas du tout. Au contraire.
Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous.
Aujourd'hui, c'est contre la Russie que nous sommes en guerre. Et l'arme absolue est l'OTAN. Ces discours de propagande de guerre sont relayés par les journalistes de tous les médias existants. Le peuple doit être nourri de cette idéologie. En 2015, dans le cadre de Mons Capitale Culturelle Européenne, l'artiste vidéaste Maximilien Ramoul réalisa une performance en créant des vidéos virales diffusées dans des lieux confinés. Et il disait sur une chaîne télé belge...
Donc ici c'est Virus Attack, une installation de Maximilien Ramoul qui est ici, que je vais vous présenter.
C'est une installation qui a été travaillée pendant l'année d'un pas de côté... Et je travaille autour des animations vidéo où je réalise des faux virus factices. Voilà, et c'est une installation avec toute une zone de contamination, une fausse zone de contamination pour essayer de questionner notre rapport par rapport au virus et à la peur.
Maximilien Ramoul a retranscrit ironiquement un état de panique et d'urgence grave qu'utilisent régulièrement divers médias pour enfermer et isoler lentement chaque individu dans un état dramatique. Un état d'aliénation paranoïaque. Aujourd'hui, ce n'est plus un virus qui sert aux médias, mais un pays, la Russie. Je me souviens de ma stupeur lorsqu'en 2022, la propagande a obtenu que des écrivains russes soient rayés des auteurs à étudier, que des compositeurs russes soient ostracisés.
Un prodige du piano privé de représentation à Montréal. Des annulations en cascade, des artistes russes écartés, contraints à la démission, voués aux gémonies sur les réseaux sociaux, même quand ils appellent publiquement à la paix en Ukraine. Ce boycott culturel inquiète le chef d'orchestre Daniel Barenboim, ce petit-fils d'Ukrainiens et de Biélorusses qui ont fui les pogroms de la Seconde Guerre mondiale, s'en émeut lors d'un concert de charité à Berlin.
La culture russe, ce n'est pas la politique russe. Les exclusions et boycotts qui émergent, par exemple en musique et en littérature russe, dans différents pays européens, m'évoquent les pires souvenirs.
À Paris, la Maison russe des sciences et de la culture a été vandalisée et cette stigmatisation dépasse désormais le monde de la culture. Parler russe dans la rue n'est plus sûr. La diaspora est victime d'insultes et d'agressions et les citoyens russes sommés de prendre parti jusque dans les cabinets médicaux.
J'étais chez un médecin français et je lui ai donné la carte vitale. Et il a vu que je suis russe, il m'a demandé « T'es content? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que ton président a fait ?»
Je pense qu'en ce moment, c'est la chasse aux sorcières, vraiment. On a trouvé un ennemi, c'est la Russie. Et donc, tous les Russes, maintenant, ben, vous êtes Russes, ça veut dire que vous êtes un ennemi. Et ben, ça ne concerne pas que la France. Je pense que ça concerne toute l'Europe, malheureusement.
C'était un reportage de TV5 Monde. Et pourtant, la Russie a été le rêve de toute l'intelligentsia française au XIXe siècle. et même au XVIIIe siècle. Diderot, je le rappelle, a légué sa bibliothèque à la grande Catherine de Russie. Depuis Pierre le Grand, les grandes familles russes, les intellectuels parlaient français. Certains, comme Tourguenieff, vivaient dans l'un et l'autre pays. La distance ne les effrayait pas. L'épouse du comte de Ségur nous a laissé ces merveilleuses histoires qui ont bercé mon enfance. Et oui, la comtesse de Ségur était russe. Nous devons les malheurs de Sophie et les petites filles modèles à une russe. Elle était la fille du comte Fyodor Rostopchine, celui qui fit incendier Moscou lors de la campagne de Russie de Napoléon Ier. Idée géniale qui sauva la Russie d'un tyran mégalomane. L'oncle par alliance de la comtesse de Ségur, le comte Philippe Paul de Ségur, a laissé ses souvenirs de la campagne de Russie dans un ouvrage qui s'intitule tout simplement « La campagne de Russie ». Voici un extrait du chapitre qui s'intitule « La Bérézina ». La nuit vint. Avant que les 40 000 Russes de Wittgenstein eussent pu entamer les 6 000 hommes du duc de Belune. Ce maréchal resta maître des hauteurs de Studzianka, préservant encore les ponts des baïonnettes russes, mais ne pouvant les cacher à l'artillerie de leur aile droite. Pendant toute cette journée, la position du 9e corps fut d'autant plus critique qu'un pont frêle et étroit était sa seule retraite. Encore les bagages et les traîneurs obstruaient-ils ces avenues? À mesure que le combat s'était échauffé, la terreur de ces infortunés avait augmenté leur désordre. D'abord, les premiers bruits d'un engagement sérieux causèrent leur épouvante, puis la vue des blessés qui en revenaient, et enfin les batteries de la gauche des Russes, dont les boulets vinrent frapper leur masse confuse. Déjà, tous s'étaient précipités les uns sur les autres, et cette multitude immense, entassée sur la rive, pêle-mêle avec les chevaux et les chariots, y formait un épouvantable encombrement. Ce fut vers le milieu du jour que les premiers boulets ennemis tombèrent au milieu de ce chaos. Ils furent le signal d'un désespoir universel. Alors, comme dans toutes les circonstances extrêmes, les cœurs se montrèrent à nu, et l'on vit des actions infâmes et des actions sublimes. Suivant leurs différents caractères, les uns, décidés et furieux, s'ouvrirent le sabre à la main, un horrible passage. Plusieurs frayèrent à leur voiture un chemin plus cruel encore. Ils les faisaient rouler impitoyablement au travers de cette foule d'infortunés qu'elle écrasait. Dans leur odieuse avarice, ils sacrifiaient leurs compagnons de malheur au salut de leurs bagages. D'autres, saisis d'une dégoûtante frayeur, pleurent, supplient et succombent, l'épouvante achevant d'épuiser leurs forces. On en vit, et c'était surtout les malades et les blessés, renoncer à la vie, s'écarter et s'asseoir résigné, regardant d'un œil fixe cette neige qui allait devenir leur tombeau. Beaucoup de ceux qui s'étaient lancés les premiers dans cette foule de désespérés, ayant manqué le pont, voulurent l'escalader par ses côtés, mais la plupart furent repoussés dans le fleuve. Ce fut là qu'on aperçut des femmes au milieu des glaçons, avec leurs enfants dans leurs bras, les élevant à mesure qu'elles s'enfonçaient, déjà submergées, leurs bras roidis les tenaient encore au-dessus d'elles. Au milieu de cet horrible désordre, le pont de l'artillerie creva et se rompit. La colonne engagée sur cet étroit passage voulut en vain rétrograder. Le flot d'hommes qui venaient derrière, ignorant ce malheur, n'écoutant pas les cris des premiers, poussèrent devant eux et les jetèrent dans le gouffre où ils furent précipités à leur tour. Tout alors se dirigea vers l'autre pont. Une multitude de gros caissons, de lourdes voitures et de pièces d'artillerie y affluèrent de toutes parts. Dirigés par leur conducteur et rapidement emportés sur une pente roide et inégale au milieu de cet abat d'hommes, elles broyèrent les malheureux qui se trouvèrent surpris entre elles, puis se rechoquant, la plupart violemment renversés assommèrent dans leur chute ceux qui les entouraient. Alors des rangs entiers d'hommes éperdus, poussés sur des obstacles, s'y embarrassent, culbutent et sont écrasés par des masses d'autres infortunés qui se succèdent sans interruption. Ces flots de misérables roulaient ainsi les uns sur les autres. On n'entendait que des cris de douleur et de rage. Dans cette affreuse mêlée, les hommes foulés et étouffés se débattaient sous les pieds de leurs compagnons, auxquels ils s'attachaient avec leurs ongles et leurs dents. Ceux-ci les repoussaient sans pitié, comme des ennemis. Dans cet épouvantable fracas d'un ouragan furieux, de coups de canon, du sifflement de la tempête, de celui des explosions des obus, de vociférations, de gémissements, de jurements effroyables, cette foule désordonnée n'entendait pas les plaintes des victimes qu'elle engloutissait. Les plus heureux gagnèrent le pont, mais en surmontant des monceaux de blessés, de femmes, d'enfants renversés à demi étouffés, et que dans leurs efforts, ils piétinaient encore. Arrivés enfin sur l'étroit défilé, ils se crurent sauvés. Mais à chaque moment, un cheval abattu, une planche brisée ou déplacée arrêtait tout. Il y avait aussi, à l'issue du pont, sur l'autre rive, un marais où beaucoup de chevaux et de voitures s'étaient enfoncés, ce qui embarrassait encore et retardait l'écoulement. Alors, dans cette colonne de désespérés qui s'entassait sur cette unique planche de salut, il s'élevait une lutte infernale où les plus faibles et les plus mal placés furent précipités dans le fleuve par les plus forts. Ceux-ci s'en détournaient la tête, emportés par l'instinct de la conservation, poussaient vers leur but avec fureur, indifférents aux imprécations de rage et de désespoir de leurs compagnons ou de leurs chefs qu'ils s'étaient sacrifiés. Mais d'un autre côté, que de nobles dévouements, et pourquoi la place et le temps manquent-ils pour les décrire ? C'est là qu'on vit des soldats, des officiers même, s'atteler à des traîneaux pour arracher à cette rive funeste leurs compagnons malades ou blessés. Plus loin, hors de la foule, quelques soldats sont immobiles. Ils veillent sur les corps mourants de leurs officiers qui se sont confiés à leurs soins. Ceux-ci les conjurent en vain de ne plus songer qu'à leur propre salut. Ils s'y refusent, et plutôt que d'abandonner leur chef, ils attendent la mort ou l'esclavage. Et pourtant, le 14 septembre 1812, Napoléon, lors de son entrée dans Moscou, avait fait jouer par le régiment « La victoire est à nous ». Napoléon était alors au sommet de sa gloire. Toutes les nations d'Europe occidentale sous son contrôle, il avait instauré un blocus continental contre le Royaume-Uni que le tsar Alexandre Ier avait levé, allant ainsi à l'encontre de la volonté de Napoléon Ier. Ah, notre tyran national ne rigolait pas quand on s'opposait à ses désirs. Et dans sa mégalomanie, il a cru pouvoir mettre à genoux la Russie, ce pays immense qui s'unit alors contre l'envahisseur. D'ailleurs, en Russie, cette campagne de Napoléon fut nommée la guerre patriotique. Lisez ou relisez Guerre et paix de Tolstoï et les Laissez-vous emporter par l'âme russe, si étroitement liée à la spiritualité. En 1880, Dostoïevski rend hommage à Pouchkine dans son discours sur Pouchkine, dans lequel il évoque l'âme russe. Tous les Russes de l'avenir se rendront compte que se montrer un vrai Russe, c'est chercher un vrai terrain de conciliation pour toutes les contradictions européennes. Et l'âme russe y pourvoira, l'âme russe universellement unifiante qui peut englober dans un même amour tous les peuples, nos frères. Déjà en 1866, Tiutchev, considéré comme un des plus grands poètes russes, écrivait « On ne peut pas comprendre la Russie par l'esprit, ni la mesurer avec des outils de mesure habituels. Elle est d'une nature si particulière qu'en elle on ne peut que croire. J'ai l'impression que peu d'Occidentaux ont compris cela. » Au XXe siècle, Hitler s'est, lui aussi, laissé séduire par la Russie, rêvant de la voir s'agenouiller devant son délire. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Les Russes ont préféré se battre avec un fusil pour deux plutôt que de céder. La 8e symphonie de Chostakovitch exprime cette volonté de l'âme russe de se battre sans concession. Je vous laisse écouter le final de cette symphonie surnommée Stalingrad.
Thank you.
La Russie, c'est aussi la peinture. Je ne citerai que Kandinsky, peintre spirituel, dont le philosophe Philippe Serres dit qu'il est parmi les théoriciens les plus marquants de la pensée contemporaine en art, car son œuvre évolue simultanément du figuratif à l'abstrait et du profane au sacré. La liste des compositeurs est longue, mais qui n'a pas entendu Tchaïkovski, Stravinsky, Chostakovitch, qui a inspiré toutes les musiques des films occidentaux? Quant au théâtre, deux grands noms vont bouleverser la mise en scène et le travail du comédien, Meyerhold et Stanislavski. La danse, ce sont les ballets russes de Diaghilev et le Bolchoï. C'est aussi Nijinsky, le danseur et chorégraphe, qui fit scandale en 1913 lorsqu'il créa le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Au cinéma, ce sont Eisenstein, Vertov, Pudovkine, entre autres, qui ont développé l'écriture et l'esthétique de l'image en mouvement. Mais les Russes ont eu aussi une grande influence sur l'image fixe avec Rodchenko. C'est aussi la poésie, celle de Pushkin, de Lermontov, mais aussi celle de Mayakovsky, un des fondateurs du futurisme soviétique. Christine Fusarelli dit son poème « Le poète est un ouvrier ».
Le poète est un ouvrier. On gueule au poète. On voudrait y voir, toi, devant un tour. C'est quoi les vers ? Du verbiage, mais question de travail, des clous. Peut-être bien, en tout cas, que le travail est ce qu'il y a de plus proche de notre activité. Moi aussi, je suis une fabrique. Sans cheminée, peut-être, mais sans cheminée, c'est plus dur. Je sais, vous n'aimez pas les phrases creuses. Débiter du chêne, ça, c'est du travail. Mais nous, ne sommes-nous pas aussi des menuisiers ? Nous façonnons le chêne de la tête humaine. Bien sûr, pêcher est chose respectable, jeter ses filets et dans ses filets attraper un esturgeon. D'autant plus respectable est le travail du poète qui pêche non pas des poissons, mais des gens vivants. Dans la chaleur des hauts fourneaux, chauffer le métal incandescent, c'est un énorme travail. Mais qui pourrait nous traiter de fainéants ? Avec la râpe de la langue, nous polissons les cerveaux. Qui vaut le plus ? Le poète ou le technicien qui mène les gens vers les biens matériels ? Tous les deux. Les cœurs sont comme des moteurs, l'âme un subtil moteur à explosion. Nous sommes égaux, camarades, dans la masse des travailleurs, prolétaires, du corps et de l'esprit. Ensemble seulement, nous pourrons embellir l'univers, le faire aller plus vite grâce à nos marches. Contre les tempêtes verbales, bâtissons une digue. Au boulot, la tâche est neuve et vive. Au moulin, les creux orateurs. Au meunier, qu'avec l'eau de leur discours, ils fassent tourner les meules.
La poésie est aussi féminine. Je prendrai comme exemple Anna Akhmatova, née en 1889 et morte en 1966, qui, fêtée et reconnue, connaîtra à partir de 1922 une mise à l'écart de 30 ans pour travaux socialement trop peu pertinents. Elle sera évidemment réhabilitée à la mort de Staline.
Large est la lumière jaune du soir, tendre la fraîcheur d'avril. Tu es en retard de 10 années, mais je suis heureuse de te voir. Assieds-toi, là, plus près de moi. Regarde de tes yeux joyeux. Voici le cahier bleu ciel rempli de mes vers d'enfant. Pardonne-moi, j'ai vécu triste et sans faire fête au soleil. Pardon, ils sont bien trop nombreux, ce que d'abord j'ai pris pour toi.
L'émission est trop courte pour aborder toute la littérature russe, si riche, si diverse, si passionnée, si flamboyante. De Gogol à Pouchkine, de Lermontov à Dostoïevski, de Turgenev à Tolstoï, de Tchekhov à Gorki, c'est toujours l'âme russe, spirituelle et déchirée, irrationnelle, démesurée dans ses sentiments, passant de l'exaltation à l'abattement, riant et pleurant. Une âme sensible que les Occidentaux confondent aujourd'hui avec un nationalisme exacerbé, alors qu'au XIXe siècle, cette idée de l'âme russe permit aux Occidentaux de ne plus voir dans les Russes un peuple arriéré. Et en 2024, les propagandistes de guerre de l'Axe du Bien banalisent la destruction par des Ukrainiens et des associations de 22 tonnes de livres.
Info Intox, c'est avec vous, Anthony Saint-Léger, bonjour.
Bonjour.
Et on fait le point ce soir sur une vidéo présentée comme une destruction de livres en Ukraine en vue d'être brûlés. Alors ces livres sont-ils russes? Ont-ils été bien détruits en Ukraine comme le montrent ces images, Anthony?
Eh bien, oui, mais dans un contexte précis. Le premier indice, on va le retrouver dans une des légendes qui est à côté de la vidéo qui est partagée sur les réseaux sociaux. Dans ce commentaire, par exemple, on évoque Khmelnytsky et 22,5 tonnes de livres. Alors, Khmelnytsky, pour la petite parenthèse, c'est cette ville qui se trouve ici, à l'ouest de l'Ukraine. Lorsque l'on regarde la publication en question, il y a un autre indice. Il se trouve ici, c'est cette inscription qui mentionne Victoria Melnikova sur TG. TG pour Telegram. Rendez-vous donc sur le compte de cette Victoria en question sur Telegram. Et que nous dit le commentaire en question? Nous sommes dans la ville de Khmelnytsky. Nous avons déjà livré 22,5 tonnes de livres et l'argent récolté servira à acheter des munitions pour les militants ukrainiens. Pour en savoir plus, on va se rendre cette fois sur un moteur de recherche comme Google. On va indiquer en ukrainien les mots Khmelnytsky, du nom de la ville, et livre. Et on va tomber sur différents articles de presse, dont celui-ci, celui d'une chaîne de télévision nationale ukrainienne, et sur un reportage aussi d'une autre chaîne de télévision, alors ici du 9 février, ici du 9 janvier, où l'on retrouve effectivement les images en question. Il est question de destruction de livres. Il s'agit, nous disent les médias, du projet de l'association Les Volontaires de Podilia.
Quel est le but de cette association?
Eh bien, cette association, la rédaction des Observateurs de France 24 l'a contactée, en l'occurrence Lise Kinemann, et elle précise qu'il s'agit de collecter des livres russes ou non, d'ailleurs, qui contiennent ce qui est présenté comme de la propagande russe. Les livres sont bel et bien détruits, mais pas brûlés. Ils sont ensuite recyclés en papier pour être vendus et les fonds récoltés viennent soutenir les forces armées ukrainiennes. Alors précision toutefois, l'association a bien reconnu ne pas être très regardante sur ce qui est amené et donc il peut y avoir des livres de Dostoïevski et de Tolstoï comme l'évoquait le premier titre. Cette initiative, elle a lieu dans plusieurs villes. Ce sont bien des initiatives locales. Locales, je précise, car elles n'ont rien à voir avec le gouvernement ukrainien, n'ont pas de lien direct, mais elles ne sont pas sans rappeler, sans faire écho à cette politique de dérussification qui a été mise en place en Ukraine bien avant la guerre, mais à laquelle l'invasion en Ukraine a évidemment donné un nouvel élan. D'ailleurs, dans sa publication du 6 février dernier, le Parlement ukrainien expliquait que 19 millions de livres avaient été radiés des bibliothèques ukrainiennes, parmi lesquelles 11 millions en russe. C'est d'ailleurs pour ça que le tweet dont je vous parlais tout à l'heure évoquait les 11 millions en question, mais aussi des livres en ukrainien qui dataient de l'ère soviétique. Le but, c'était espérer de tourner définitivement la page de la propagande russe.
Sans remonter à la Première Guerre mondiale, souvenons-nous de la censure pendant la guerre du Vietnam, si bien évoquée dans Good Morning Vietnam.
Mais merde! Debout, vilain pionceur! T'es en retard!
Chers amis, que vous dire sinon, salut!
Salut! Salut!
Allez, dites-moi lequel de vous deux est ventriloque. Ah, censuré, censuré, censuré. Dans la bif, biffé!
Alors voyons ça, quel genre d'information vous me laissez là? Nixon, Singapour, le lac Kerrier, vous foutez de moi?
Dépêche, à toi dans deux secondes. Et voici Adrian Cronauer. Good morning Vietnam! Salut les louveteaux, et rappelez-vous, le mercredi, c'est le jour de la malaria. Alors prenez bien vos jolies pilules anti-palu et entraînez-vous à la danse du ventre, Ho Chi Minh.
Et encore plus près de nous, l'affaire Julian Assange, qui risque 175 ans de prison si Londres décide de l'extrader vers les États-Unis.
C'est une affaire judiciaire tentaculaire, à l'image d'un homme dont les révélations ont changé le monde. Tout commence en avril 2010. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, un site internet encore peu connu du grand public, publie cette vidéo. On y voit un hélicoptère Apache de l'armée américaine tirer sur des civils irakiens, dont plusieurs journalistes. Une bavure meurtrière et des images qui vont scandaliser l'opinion publique internationale. D'autant qu'elles sont suivies par des centaines d'autres révélations issues de milliers de documents ultra-confidentiels de l'armée américaine et dont on ignore toujours aujourd'hui l'origine.
Cette révélation vise à établir la vérité. En temps de guerre, les attaques contre la vérité commencent bien avant le début du conflit et se poursuivent bien après.
À partir de là, Julian Assange devient l'ennemi public numéro un des États-Unis. Au nom du secret d'État américain, commence alors une gigantesque chasse à l'homme. Poursuivi pour espionnage, il est arrêté une première fois à Londres, puis relâché quelques mois plus tard.
Ça fait du bien de respirer l'air frais de Londres à nouveau.
Mais pour Julian Assange, ce n'est en fait que le début de la bataille judiciaire. Quelques mois plus tard, deux femmes l'accusent de viol. Le fondateur de Wikileaks dénonce un complot de la CIA visant à le faire extrader aux États-Unis. Pour y échapper, il trouve une parade. En juin 2012, il se réfugie dans l'ambassade d'Équateur, pays qui lui a accordé l'asile.
Les États-Unis doivent renoncer à sa chasse aux sorcières contre Wikileaks.
Julian Assange va passer près de 7 ans enfermé dans cette ambassade. Son état mental et physique s'y dégrade lentement. En 2017, le gouvernement équatorien lui retire son statut de réfugié politique. Le 11 avril 2019, la police britannique l'arrête. Les images font le tour du monde. Il apparaît méconnaissable.
L'Angleterre n'est plus un état souverain.
Julian Assange retourne en prison. Pendant plusieurs années, il enchaîne les recours à la justice pour tenter d'empêcher son extradition. Héros pour les uns, traître pour les autres, son interminable combat doit prendre fin ce 20 février. La justice britannique se prononce sur sa dernière demande d'appel, sans quoi le fondateur de Wikileaks sera extradé. Sa femme alerte l'opinion publique. Pour elle, il n'y survivra pas. Âgé de 52 ans, Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison.
C'était un reportage de TV5 Monde. D'après nos journalistes, nous, occidentaux, nous vivons en démocratie. Cette idée est martelée à longueur d'interviews, d'analyses, de thèses politico-économiques, de documentaires, d'articles, etc. C'est pourquoi nous pouvons condamner la Russie, la Chine, l'Iran, le Venezuela et j'en passe. Pourtant, si on lit Gramsci dans « Socialisme et culture » écrit en 1916, on comprend que la civilisation occidentale tombe sans esprit critique dans la décadence et la barbarie. C'est à travers la critique de la civilisation capitaliste que s'est formée ou qu'est en train de se former la conscience unitaire du prolétariat. Et « critique » signifie bien culture et non évolution spontanée et naturelle. « Critique » signifie justement cette conscience du « moi » que Novalis assignait comme fin à la culture. Un « moi » qui s'oppose aux autres, qui se différencie, et qui s'étant fixé un but, juge des faits et des événements, non seulement par rapport à lui-même et pour son propre compte, mais aussi en tant que valeur de progrès ou de réaction. Se connaître soi-même signifie être maître de soi, se différencier, se dégager du chaos, être un élément d'ordre, mais un élément de son ordre propre et de sa propre discipline à l'égard d'un idéal. Et tout ceci ne peut s'obtenir sans connaître aussi les autres, leur histoire, la succession des efforts qu'ils ont faits pour être ce qu'ils sont, pour créer la civilisation qu'ils ont créée et à laquelle nous voulons substituer la nôtre. Cela veut dire qu'il faut avoir des notions de ce que sont la nature et ses lois pour connaître les lois qui gouvernent l'esprit et qu'il faut tout apprendre sans perdre de vue que le but ultime est de se mieux connaître soi-même à travers les autres et de mieux connaître les autres à travers soi-même. Si S'il est vrai que l'histoire universelle est la chaîne des efforts que l'homme a fait pour se libérer tant des privilèges que des préjugés et des idolâtries, on ne comprend pas pourquoi le prolétariat, qui veut ajouter un nouveau maillon à cette chaîne, ne devrait pas apprendre comment, pourquoi et par qui il a été précédé, et savoir tout le profit qu'il peut tirer de cette connaissance. Un petit intermède avec Gilles Scott-Heron, Revolution Will Be Not Televised.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Je dois m'arrêter là aujourd'hui, chronomètre oblige. Mais la suite est pour la prochaine émission. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang 89.7 FM.